Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. Yodé et Siro, un duo de chanteurs populaires en Côte d'Ivoire, ont été placés en garde à vue mercredi après une longue audition. Selon leur avocat, ils doivent être présentés ce jeudi en procureur après avoir été entendus pendant 6 heures pour outrage à magistrat, trouble à l'ordre public et diffamation. Yodé Siro avait critiqué le travail du procureur d'Abidjan, Richard Adou, lors d'un concert le week-end passé à Yopougon, un quartier populaire de la capitale ivoirienne. Par ailleurs, Human Rights Watch a demandé mercredi des enquêtes sur les meurtres de plus de 50 personnes en Côte d'Ivoire lors des violences politiques et intercommunautaires qui ont accompagné la présidentielle d'octobre. Abdourahmane Dia nous en parlera. Au Nigeria, un travailleur humanitaire et 2 responsables locaux ont été enlevés lundi dans le nord-est du pays par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Selon 2 sources sécuritaires, l'enlèvement a eu lieu à un barrage érigé par le groupe djihadiste dans le village de Wakilti, dans l'État du Borno, en proie à une insurrection islamiste depuis plus de 10 ans. En juin dernier, ce groupe avait tué 5 travailleurs humanitaires quelques jours après leur enlèvement. Appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au parti en présence en République démocratique du Congo pour résoudre la crise politique actuelle au sein de la coalition au pouvoir. Eddy Issango nous en parlera. Quelques 20 000 forces étrangères et ou mercenaires sont toujours en Libye, en dépit de l'accord de cessez-le-feu signé en octobre, a déploré mercredi l'émissaire de l'ONU par intérim qui a assuré que ces étrangers déversent des armes en Libye, un pays qui n'a pas besoin davantage d'armes. En Algérie, les autorités ont bloqué mercredi plusieurs sites d'information, confirmant le verrouillage du paysage médiatique indépendant en ligne notamment, et l'offensive contre la liberté de la presse et d'expression, selon l'AFP. Et en Tunisie, le chef du gouvernement a appelé les forces de sécurité à intervenir immédiatement pour repousser les manifestants qui bloquent les sites de production industrielle après une série de mobilisations sociales à travers le pays. La Mauritanie a annoncé mercredi la fermeture des écoles et universités pour 2 semaines, afin de faire face à une recrudescence des cas de nouveau coronavirus. Le gouvernement a également décidé d'interdire les cérémonies publiques et de limiter au strict minimum la présence des fonctionnaires dans l'administration publique, a déclaré le ministre de l'Intérieur Mohamed Salem Ould Merzouk lors d'une conférence mercredi à Nouakchott. Ces mesures ont été donc prises après une montée des cas de COVID-19 ces derniers jours dans le pays, après une baisse pendant les semaines précédentes. Ici aux États-Unis, le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées a dépassé les 100 000 pour la première fois, a annoncé mercredi le COVID Tracking Project. Plus de 2700 nouveaux décès de COVID-19 ont été enregistrés mercredi, un niveau quotidien pas connu depuis avril selon l'université Johns Hopkins. Le Royaume-Uni et la Russie ont annoncé mercredi qu'ils comptaient commencer à vacciner leur population contre le COVID-19 dès la semaine prochaine grâce au déploiement des vaccins Pfizer-BioNTech et Sputnik V. L'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing, au pouvoir de 1974 à 1981, partisan de l'intégration européenne et qui a contribué à moderniser la société française dans les années 1970, est mort mercredi à l'âge de 94 ans, des suites du COVID-19. Le 737 MAX de Boeing a effectué mercredi son premier vol. La suite de nos informations. République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies appelle les partis en présence à dialoguer pour résoudre la crise politique dans leur pays selon la constitution congolaise. Antonio Guterres a déposé lundi devant le Conseil de sécurité un rapport sur la situation en RDC. Eddie Isango.
Antonio Guterres s'est dit préoccupé par les tensions au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Dans son rapport au Conseil de sécurité, il prévient que ces tensions entre les camps du président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila pourraient saper la fragile stabilité politique, inverser les progrès réalisés depuis les élections de 2018 et les transferts pacifiques du pouvoir qui en a résulté. Pour le secrétaire général des Nations Unies, les parties prenantes doivent résoudre leurs différends par les dialogues conformément à la Constitution. Les partisans des Kabila comme ceux de Martin Fayulu n'ont pas pris part aux consultations que le président Tshisekedi a clôturées la semaine dernière. M. Tshisekedi devrait annoncer sa décision dans les jours qui viennent. Les commandants de l'armée et de la police lui ont réitéré leur loyauté. Lundi, les patrons de la garde présidentielle a invité ses troupes chargées de la sécurité du chef de l'État à n'est pas comploté contre lui. Personne ne peut dire quand le président Tshisekedi va annoncer les décisions qu'il a prises à l'issue des consultations politiques.
Pour sa part, le président français Emmanuel Macron s'est déclaré satisfait du développement de la situation en RDC. Il l'a dit hier dans un entretien téléphonique avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, rapporte la présidence congolaise. Côte d'Ivoire, Human Rights Watch appelle le gouvernement ivoirien à enquêter de toute urgence sur les meurtres de plus de 50 personnes lors des violences politiques et intercommunautaires qui ont accompagné l'élection présidentielle d'octobre. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon l'Organisation de défense des droits humains, les forces de sécurité n'ont pas protégé les civils de manière adéquate et ont tué au moins deux manifestants à Elibou, dans le centre du pays, le 9 novembre. La secrétaire d'État ivoirienne chargée des droits de l'homme, Aimé Zebeyou, a démenti dans un courrier adressé à Human Rights Watch que les forces de l'ordre aient tué ou blessé quiconque. Elle a assuré que les efforts du gouvernement pour sécuriser l'élection et prévenir les violences communautaires et politiques avaient permis une bonne tenue du scrutin et de contenir la grande majorité des débordements. Madame Zebeyou a aussi indiqué à Human Rights Watch que des enquêtes avaient été lancées afin d'identifier et d'interpeller toutes les personnes ayant commis des infractions pénales. Human Rights Watch s'inquiète également des procédures judiciaires lancées contre une dizaine de responsables de l'opposition, dont certains, comme l'ex-premier ministre Pascal Affingessan, sont toujours en prison. Cibler les membres de l'opposition par le biais d'un processus judiciaire vicié n'apaisera pas les dangereuses tensions politiques et ethniques qui agitent la Côte d'Ivoire, estime Jim Warmington, chercheur de la division Afrique de Human Rights Watch.
Ici aux États-Unis, les autorités sanitaires ont recommandé hier de réduire de 14 à 10 jours la quarantaine des personnes entrées en contact avec un cas positif au coronavirus. Michel Joseph.
La quarantaine pourrait même être réduite à 7 jours dans le cas où la personne exposée au Covid-19 a reçu un test négatif. Nous pourrons obtenir un meilleur respect des règles, explique Henry Walkie des Centres de prévention et de lutte contre les maladies ou CDC. Cependant, il insiste sur le fait que cette solution n'est pas sans risque et que les personnes qui terminent leur quarantaine prématurément doivent continuer à surveiller l'apparition de symptômes durant 14 jours. Plus de 150 000 personnes sont testées positives chaque jour aux États-Unis. Un nouvel essor des contaminations est attendu après Thanksgiving. Et en anticipation au voyage de Noël, les CDC recommandent un test 1 à 3 jours avant de partir et un autre 3 à 5 jours au retour, tout en rappelant que la solution la plus sûre est de rester chez soi. Alors que le vaccin Pfizer-BioNTech a été autorisé mercredi au Royaume-Uni, la FDA ne donnera son autorisation qu'après la réunion publique de son comité consultatif le 10 décembre, et ce même comité doit se réunir une semaine après pour le vaccin de Moderna. L'administration Trump prévoit d'avoir vacciné 100 millions d'Américains d'ici fin février.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Dans un bulletin conjoint, l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications rapportent que 1,3 milliard d'enfants en âge de scolarisation et 63% des jeunes de 15 à 24 ans n'ont pas accès à Internet chez eux pour profiter de l'enseignement en ligne pendant la pandémie. Les pays les plus touchés sont ceux d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud, avec près de 9 enfants sur 10 sans accès à Internet. Après avoir acheté les actifs d'Atlas Mara au Mozambique en septembre, la banque nigériane Access Bank est en pourparlers pour acquérir ses autres participations en Zambie, au Botswana et au Zimbabwe. Access Bank a enregistré une hausse de bénéfices de 16% au troisième trimestre 2020. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, la Banque africaine de développement organisera le 9 décembre un forum visant à relever les défis contre la fuite de capitaux due à la corruption et exacerbée par la pandémie. Lors de cette rencontre en visioconférence qui réunira des hauts cadres, la BAD entend partager les techniques évolutives de lutte contre la corruption dans la nouvelle normalité.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Fin hier des matchs de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Grosse déception pour Manchester United qui s'est incliné à Old Trafford 1-3 devant le Paris Saint-Germain. Le RB Leipzig a battu Istanbul Başakşehir 4-3. 1-0 pour le FC Krasnodar qui recevait Rennes. Carton plein 4-0 pour Chelsea qui s'est déplacé en Espagne pour jouer le FC Séville avec un quadruplé du français Olivier Giroud. 3-0 pour les Belges du club Bruges qui recevaient le Zénith Saint-Pétersbourg. 1-1 entre le Borussia Dortmund et la Lazio Rome. 3-0 pour le FC Barcelone devant Ferencváros. Et 3-0 également pour la Juventus Turin face au Dynamo de Kiev. Ici aux États-Unis, la Fédération américaine de football est parvenue à un accord avec les joueuses de l'équipe féminine sur leurs conditions de travail dans le cadre du procès opposant les deux parties depuis l'année dernière. L'accord validé par une cour de justice de l'État de Californie porte sur les conditions de voyage, de logement, d'organisation des matchs et la question du personnel dévoué à la sélection. Il a été qualifié de moment important et bienvenu par US Soccer et les joueuses de l'équipe nationale par la présidente d'US Soccer, Cindy Parlow-Cooney, qui a succédé au début de l'année à Carlos Cordero, démissionnaire. Cet accord ne porte pas cependant sur les revendications salariales de l'équipe féminine américaine qui réclame 66 millions de dollars en arriéré de salaire en vertu de la loi sur l'égalité des salaires et de la loi sur les droits civils dans le cadre d'une action en justice intentée depuis 2019 à l'instigation, entre autres, de la joueuse vedette des championnes du monde en titre, Megan Rapinoe. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en NBA, le pivot franco-américain Joakim Noah a été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers et s'oriente vers une fin de carrière après 13 saisons passées en NBA, a expliqué son agent. Noah, 35 ans, se dirige très probablement vers la retraite, a reconnu Bill Duffy. Drafté en juin 2007 en 9e position, Jukes, son surnom dans sa famille, a rejoint la mythique franchise des Chicago Bulls où il a évolué pendant 9 saisons entre 2007 et 2016. Avec les Bulls, il a joué les playoffs NBA pendant 6 saisons de 2009 à 2014, atteignant la finale de la conférence Est en 2011, battue par le Miami de LeBron James 4-1. Après son aventure aux Bulls, il a évolué aux New York Knicks de 2016 à 2018, puis aux Grizzlies de Memphis de 2018 à 2019. En mars 2020, il a signé un contrat avec les Clippers et a disputé la fin de saison dans la bulle sanitaire de Disney World.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Ghana est loué pour sa réponse au Covid-19 qui a fait dans ce pays 323 morts, un nombre assez bas. Cependant, le total des cas a dépassé les 50 000 et le président Nana Akufo-Addo a exhorté ses concitoyens à rester vigilants. De leur côté, les experts craignent une aggravation de la situation lorsque les partis politiques passeront à la vitesse supérieure dans le cadre de la campagne pour les élections. Reportage de Stacy Knott à Accra, récit de Mohamedou Humfa.
Au Ghana, les services de santé estiment que plus de 80% des Ghanéens ne portent plus de masque facial, une baisse drastique par rapport au niveau de conformité antérieur. Le mois dernier, le président Nana Akufo-Addo a exhorté ses concitoyens à mettre les masques lors des rassemblements pour les élections du 7 décembre. Mais pendant les événements de campagne à travers le pays, tant pour le nouveau parti patriotique au pouvoir que pour le Congrès national démocratique de l'opposition, les partisans bafouent ces règles. Alors qu'elle attendait l'arrivée du président à un meeting en plein air à Accra, Cynthia Asiama s'est dite frustrée de voir d'autres partisans à visage découvert.
Certaines personnes ne portent pas de masque, elles n'écoutent pas. Sérieusement, elles n'écoutent pas leur président parce qu'il nous a dit que tout le monde doit porter le masque facial.
Certains organisateurs politiques prennent des précautions et tiennent leurs événements en plein air ou en ligne. D'autres organisent des marches de santé au lieu de rassemblements traditionnels. L'expert en santé publique Nana Kofi Kwaki estime que c'est un vœu pieux de croire que les grands rassemblements en plein air ne vont pas augmenter les risques, étant donné le faible respect de la distanciation sociale et du port du masque.
Oui, ils sont à l'extérieur, ils sont donc moins exposés que s'ils étaient à l'intérieur. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont en sécurité. Il ne s'agit pas d'un scénario à risque zéro, avec des conditions plus aiguës autour du port de masque, de la distance et de la ventilation. Vous vous attendez à voir une hausse de taux d'infection.
Il ajoute que la fausse croyance selon laquelle le Covid-19 n'a généralement pas d'impact majeur sur la santé a conduit certains Ghanéens à prendre plus de risques.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Malgré l'initiative COVAX de l'Organisation mondiale de la santé visant à garantir l'accès des pays à faible revenu aux vaccins contre le Covid-19, des observateurs craignent que de nombreux pays africains ne reçoivent pas suffisamment de doses. Des pays comme le Malawi ne disposent actuellement pas d'infrastructures nécessaires pour prendre en charge les vaccins qui nécessite une congélation constante pour éviter la détérioration. Jacques Aristide fait le point.
À l'hôpital de Bouaïra, à Lilongwe, la capitale du Malawi, rien n'a encore été mis en place pour stocker les vaccins qui ont eu récemment le plus de succès dans les essais cliniques, dont ceux de Moderna et de Pfizer-BioNTech. Ils requièrent un stockage jusqu'à moins de 80 degrés Celsius. Mais pour des pays comme le Malawi, les défis sont énormes. D'abord, rivaliser avec les pays riches pour les doses de vaccins. Ensuite, les conserver dans les installations appropriées, dotées d'une alimentation électrique fiable. Les congélateurs, comme à l'hôpital de Bouaïra, maintiennent des températures entre 2 et 8 degrés Celsius. Le Malawi dispose déjà d'un solide programme de vaccination, mais d'après les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, il concerne principalement les enfants. Docteur Nonlanla Rosemary Nlamini est la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Malawi.
Le matériel frigorifique dont disposent de nombreux pays, y compris le Malawi, n'est pas du même type dont on a besoin. C'est le constat de notre évaluation. Mais nous ne savons toujours pas quel type de vaccin aura le pays.
Selon les CDC Afrique, le continent doit vacciner 60% de sa population pour atteindre le niveau minimal d'immunité collective. Environ 1,5 milliard de doses de vaccins seront nécessaires pour un coût total estimé jusqu'à 10 milliards de dollars américains. Le Malawi est l'un des pays les plus pauvres au monde, d'après la Banque mondiale. Docteur Charles Amwansambo est du département de la santé du Malawi.
Si nous devons considérer le dernier candidat vaccin, Oxford AstraZeneca, en tant que pays, nous sommes prêts. Nous avons déjà des infrastructures dans toutes les régions. Nous avons des entrepôts qui peuvent conserver ce vaccin.
À l'hôpital de Boyira, Fanny Banda attend d'être vue par un médecin.
Le vaccin aurait pu commencer au Malawi, ou mieux encore, il aurait pu commencer dans tous les pays en même temps. C'est parce que le Covid-19 a touché tous les pays. Si seulement quelques pays sont choisis en premier, les gens dans les pays en attente seront morts au moment où le vaccin leur parviendra.
Elenita Patrick est une autre résidente de Lilongwe.
Le Malawi n'a pas la capacité de gérer le vaccin seul. Il aurait été préférable qu'une organisation non gouvernementale donne un coup de main pour s'assurer que chacun reçoive le vaccin.
Le gouvernement du Malawi a mis sur pied un comité pour décider qui feront partie des 20% de la population à recevoir en premier un vaccin.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le président élu Joe Biden continue de mettre en place son équipe alors que la transition a finalement débuté, bien que Donald Trump n'ait toujours pas reconnu sa défaite. Avec ses premières nominations, Joe Biden annonce un retour des États-Unis sur la scène internationale. Que peuvent augurer ces nominations pour la future administration Biden? Quelles relations entre les États-Unis et le reste du monde? Rendez-vous ce jeudi 3 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les Nigérians toujours sous le coup du massacre de 76 agriculteurs le week-end dernier dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. C'est l'indignation au sein des populations pendant que les forces de sécurité et les groupes d'autodéfense tentent encore de retrouver des personnes portées disparues. Pourquoi le pays n'a-t-il pas encore réussi à vaincre Boko Haram alors que le gouvernement nigérian a déclaré à plusieurs reprises avoir vaincu ce groupe djihadiste? Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le Nigeria est plongé depuis plus de 10 ans dans une crise sans fin dans le nord-est du pays. À l'insurrection djihadiste s'ajoutent des affrontements meurtriers et récurrents entre éleveurs peuls et agriculteurs dans le centre du pays et les multiples enlèvements d'étrangers des Nigérians pour des rançons. Dans une vidéo, le groupe dirigé par Aboubakar Shekau affirme avoir tué des dizaines de villageois du district de Djéré près de Maïdougouri. 43 corps ont été enterrés dimanche et 33 autres ont été enterrés lundi, a déclaré Babakoura Abadjadou, le ministre local de l'information. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver d'autres victimes. Pourtant, le gouvernement nigérian a déclaré à plusieurs reprises avoir vaincu Boko Haram. Mais pourquoi le Nigeria n'a-t-il pas réussi à vaincre le groupe djihadiste? La question est sur toutes les lèvres. Écoutons l'avis de cet expert en sécurité, Onyekachi Adekoya.
Il y a une contrainte qui explique pourquoi l'armée nigériane ne peut pas faire face efficacement au problème de Boko Haram. J'ai répété cela à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de m'exprimer. Nous savons où se trouve Boko Haram et comment le groupe opère. Ce que nous n'avons pas, c'est ce dont on a besoin pour résoudre le problème de Boko Haram. Il est aussi vrai que l'armée manque de logistique.
L'attaque de samedi dernier est considérée comme la plus violente contre les civils cette année. Les villageois ont enterré les corps de dizaines d'agriculteurs. Presque toutes les victimes ont été égorgées. La corruption au sein des services de sécurité dans la région et les conditions de travail difficiles de la police nigériane sont souvent pointées comme les maux qui minent la lutte contre les islamistes. Austin Brahimo est membre de la Commission nationale en charge de la gestion des affaires des services de police.
Principalement, il est clair que la police nigériane est sous-financée et manque d'hommes. Parce que si vous avez, par exemple, une police de moins de 400 000 agents pour sécuriser près de 2 millions de personnes, vous comprendrez certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes au courant que nous n'avons pas assez d'hommes qui peuvent, pour créer un espace autour de nous, maintenir la paix.
Le ministre nigérien de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed, soutient aussi que le manque de moyens logistiques pour mettre fin aux activités meurtrières du groupe Boko Haram reste un défi à relever.
Le Nigeria a fait plusieurs tentatives pour obtenir de l'armement nécessaire pour faire face à ce problème de terrorisme. Mais pour une raison ou une autre, nous n'avons pas reçu ces armes. Et sans l'armement adéquat, nous allons continuer à rester à la merci des terroristes.
La crise dans le Nord-Est a fait plus de 36 000 morts et au moins 2 millions de déplacés. Les agriculteurs sont devenus la cible, ce qui est aussi une menace pour la production alimentaire du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En République centrafricaine, la course de pirogues est le point d'orgue des célébrations du 1er décembre. Les Centrafricains en ont été privés pendant plusieurs années à cause des combats qui ravagent le pays depuis 2013. La tradition populaire a repris en 2018 sur l'initiative de notre collègue de VOA Afrique, Félix Yepassis Zembro. Félix, ici à Washington.
C'est quelque chose de d'abord sportif et puis de culturel. Parce que ça rassemble toutes les populations riveraines de la rivière Oubangui, hein, de l'amont et en amont de cette rivière-là. Donc, chaque année, après le défilé du 1er décembre sur l'imposante avenue des martyrs à Bangui, toute la population, tous les Banguissois se dirigent vers le fleuve pour assister à cette formidable course de pirogues.
On le sait, la course de pirogues s'est tenue jusqu'à récemment en 2013, où elle a quand même été interrompue suite aux événements, le coup d'État notamment. Comment les populations de Bangui et les Centrafricains en général ont vécu cet arrêt brusque?
Ça s'est interrompu en 2013 avec les événements que le pays a connus, avec l'entrée de la coalition Seleka. Et avec les Balkans aussi qui sont entrés en jeu. Donc depuis lors, il y a eu une accalmie. Et c'est exactement en 2018 que moi, j'ai pris l'initiative d'aller à Bangui. J'ai contacté les autorités, notamment le maire de la ville de Bangui, qui a donné son accord pour la relance de cette course. Donc, c'est en 2018 que nous avons relancé cette course. Depuis lors, l'année dernière, en 2019, il y a eu cette course à laquelle le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite à Bangui, a eu l'occasion d'y assister.
Justement, oui. Vous résidez ici aux États-Unis, vous décidez en 2018 de rentrer à Bangui et relancer cette course de pirogue-là. Pourquoi?
Oui, parce que je ne trouvais pas ça normal que cette course qui a toujours fait partie intégrante des festivités, des manifestations du 1er décembre. Donc, ne pas organiser cette fête, c'est un manque à gagner total pour la population. Et c'était aussi une occasion, parce que j'avais placé cette course sur le thème de la paix. C'était aussi une occasion de fédérer, de regrouper de tous les Centrafricains, sans distinction, hein, pour assister à cette fête dans la joie.
On sait que les Centrafricains, comment cette course de pirogue peut contribuer à amener la paix entre Centrafricains?
Oui, la paix en ce sens que ça, on oublie les guerres, on oublie toutes les actions qu'on a subies durant cette période sombre de l'histoire de la République centrafricaine. Alors il faut voir, parce que c'est comme un match de football, hein. Vous voyez au stade, il n'y a aucune distinction, les gens acclament les concurrents, les footballeurs. C'est pareil, cette année il y a eu 20 pirogues qui ont été engagées dans cette course. Dans cette course, il y a plusieurs ethnies. Donc, ben voilà, on oublie tout et c'est la joie, c'est la fête, c'est l'allégresse, on oublie la guerre.
Qui sont ceux qui participent à cette course?
Généralement, ce sont des pêcheurs. C'est leur activité quotidienne. Souvent, ils ont l'habitude d'aller à la pêche avec leur façon de pagayer. On distingue deux types de piroguiers chez nous. Il y en a qui pagayent en position debout et d'autres qui pagayent en position assise. Et généralement, ce sont ceux qui pagayent en position debout qui ont l'avantage. Ce sont toujours ces pirogues-là qui remportent les 3, 4, 5 premières places.
Notre collègue de VOA Afrique, Félix Yepassis Zembro, joint ici à Washington. Aujourd'hui, VOA Afrique, voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.